Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Je suis contre la violence. Je suis optimiste pour l'avenir des Noirs de Birmingham.
Aux États-Unis, des milliers d'hommes, noirs et blancs, participent aujourd'hui à cet immense effort.
Les choses s'améliorent de jour en jour, mais il nous reste encore un très long chemin à parcourir.
Il n'y a pas de problème noir, dira le président Johnson. Il n'y a pas de problème du Sud ou du Nord. Il y a un problème américain.
Je pense qu'il règne un sentiment d'espoir dans la communauté noire, un sentiment que nous venons de très loin et que nous avons un nouveau sens du respect de chacun.
And now, my friends, let the trumpet sound, let the bells ring, let the drums roll. Lay out the red carpet. Here he comes, America's beloved freedom fighter, Martin Luther King.
Comme vous l'aurez compris à l'écoute de cette pieuse et majestueuse introduction sonore, nous allons donc nous plonger cette semaine dans une épopée qui dépasse largement la simple évocation d'une date, d'un personnage ou d'une culture. 50 ans après la disparition du célèbre pasteur Martin Luther King, nous allons essayer de comprendre combien son mouvement a changé le cours de l'histoire aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Évidemment, il nous faudra revenir sur la source originelle de cette fronde sociale des Noirs d'Amérique et parvenir à relier les époques, les engagements, les renoncements, les petites et grandes victoires, les acteurs et témoins d'une aventure humaine qui continue de susciter bien des commentaires, controverses et confrontations. Nous vous proposons donc une série de 5 émissions que nous avons réalisées dans le sud des États-Unis, là où il y a un demi-siècle, un homme d'église devenu en l'espace de 10 ans le porte-parole de millions de citoyens noirs américains, délivrait un message d'espoir et mettait une dernière fois en garde les esprits étriqués, arc-boutés sur des convictions d'un autre âge.
Whether they are in Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana, New York City, Atlanta, Georgia, Jackson, Mississippi, or Memphis, Tennessee, the cry is always the same. We want to be free.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear.
Cette quête de liberté que l'insoumise Nina Simone appelait de ses voeux en 1967 a été et reste un défi pour la communauté africaine-américaine outre-Atlantique. Ce combat existentiel sans fin a connu plusieurs soubresauts, plusieurs visages, et chaque fois, il fallait affronter les humiliations et les brimades pour tenter d'avancer et retrouver la dignité. Les échos de ces luttes quotidiennes nous parviennent souvent en musique, quand les artistes noirs cherchaient un espace d'expression pour hurler leur colère.
That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free.
Entendre J.B. Lenoir fustiger l'état d'Alabama en 1965 nous éclaire sur l'esprit de rébellion qui animait la communauté noire dans le sud des États-Unis à l'époque. Cette aigreur était le fruit de 4 siècles d'esclavage, de soumission, d'oppression et d'intimidation. Le bluesman et historien Ben Wiley Payton, originaire de Jackson dans le Mississippi, étudie depuis des décennies la manière dont les musiciens exprimaient leur rancœur dans leur répertoire. Nous l'avons rencontré à Greenwood, Mississippi, où il déjeunait avec quelques amis, mais a bien voulu répondre à nos questions.
How you doing, Ben?
I'm fine. How about you?
Good, good.
You taking lunch? My standpoint is to give a history that can be related to and understand.
Mon cheval de bataille, c'est de donner aux jeunes une meilleure compréhension de l'histoire. Je veux qu'ils comprennent que le blues n'est pas une musique nécessairement triste. Elle n'est que le reflet d'une époque, d'une communauté, d'un état d'esprit. Si vous prenez le temps d'étudier le blues, votre ouverture d'esprit en sera plus grande. Je continue à rencontrer des gens ici aux États-Unis qui reconnaissent humblement n'avoir jamais osé parler à un noir. Il y a aussi des Noirs qui ne veulent pas parler à des Blancs, soyons honnêtes. Mais comment peuvent-ils savoir s'ils parviendront à s'entendre s'ils ne font pas l'effort de côtoyer leurs contemporains? Comment peuvent-ils se faire des amis s'ils ne cherchent pas à les rencontrer? J'espère donc être ce lien qui permettra aux gens de s'apprécier. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que le blues doit être compris. Le son originel du blues provient directement de la période de l'esclavage. C'est l'histoire des esclaves que vous entendez à travers le blues. Il y a comme une lamentation dans le blues qui traduit la souffrance des esclaves.
You know, I ran across this, they were saying the mournful blues. And so I wonder now, what is the mournful blues?
Le blues, à l'origine, n'utilisait pas de mots. Il ne s'agissait que d'une complainte. Voilà ce que j'appelle le blues. Quand un esclave était maltraité par son maître, il ne pouvait que se lamenter, mais ne pouvait pas s'exprimer. Ce sont les lamentations du blues. En Afrique, on retrouve ce type de complainte ancestrale dans les chants des Gnawa du Maroc.
In Africa, and you hear all those figurations like boom 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 boom. See what I'm saying? Doo 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 doo. Oh, come along, come along, come along. You see? It's a powerful music of those fellows.
Ce peuple isolé dans les montagnes du Maroc a préservé ses traditions de génération en génération. Quand j'ai entendu leur chant pour la première fois, j'ai ressenti une émotion incommensurable. Je passais des journées entières à les écouter. J'entendais distinctement les anciennes lamentations africaines qui ont nourri notre blues américain. Ces complaintes identifiaient une communauté que l'on a retrouvée des décennies plus tard dans les églises baptistes américaines. Ce son spécifique vient directement de la complainte des esclaves. Puis sont apparues les paroles des chansons. Quand un bluesman chante « Ma bien-aimée m'a quitté », il y a une complainte, mais il y a aussi un sens caché. C'est davantage l'expression d'une vie misérable que l'on perçoit dans ces mots. C'est le quotidien du noir exploité par un colon blanc.
My baby done left me. Boss, what happened if you move that thing right there? Boss man move that and track the crank up. So they had all kind of little skills and way of doing things.
Le noir devait avoir du cœur à l'ouvrage, mais ne devait pas être trop futé pour ne pas contredire l'esclavagiste. Ces gens ont sacrément souffert. Tout cela vous explique pourquoi le blues me passionne. Raconter cette histoire me fait avancer.
And this is why I study so hard. This is my life. All I do is telling stories. That's what I love to do, man, you know.
Sisters and brothers, we met here on some serious business. It's been some backbiting going on. And the thing I want to know is who's been doing it. It's a shame. It's a shame. It's a shame. The thing I want to know is what bit me on my, who bit me on my back. E, you sinners, hear my call. Satan's waiting for you all. Better get your souls washed white. Better see the light.
Amen.
Face à la résurgence des propos et des violences racistes aux États-Unis, Ben Wiley Payton veut s'adresser à la jeune génération. Il sait qu'il peut compter sur elle pour contrer les velléités belliqueuses de certains citoyens blancs.
The only thing that I can
La seule chose qui me relie aux jeunes aujourd'hui, c'est mon désir de les motiver pour qu'ils voient plus loin et s'investissent davantage dans leur vie sociale. Ils peuvent le faire à travers leur esprit créatif, car Martin Luther King a réussi cet exploit à travers ses mots. Il inspirait ses contemporains. Il parvenait à leur donner confiance. Sa seule façon de s'exprimer était un encouragement. Les mots qu'il utilisait, la musicalité de ses discours vous mobilisaient.
Long time. You see that kind of a drag. We've been looking and the way he expressed it.
Quels que furent vos tourments, vous parveniez à relever la tête grâce à Martin Luther King. Même dans la musique, vous perceviez ce retour de la foi. Dans les années 50, l'expression des bluesmen était victimaire. À partir des années 60, quand Martin Luther King devient une figure nationale, les titres des chansons évoluent. On parle de soleil à travers les nuages. Quand il fait froid dehors, je trouve le réconfort auprès de ma bien-aimée. Les paroles de chansons semblaient plus positives. La musique évoluait, la culture et la société évoluaient au moment où Martin Luther King donnait de l'espoir à la communauté afro-américaine. C'était l'ère des doo-wop, des airs joyeux auxquels je m'identifiais totalement. C'est ainsi que nous parvenions à relever la tête.
It's like everybody, whatever they did, they began to reach higher.
Oh, Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. I want to let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. And it was not well. There was a woman from Samaria came to the well to get some water. There she met a stranger who did a story tell. That a woman dropped a pitcher. She drank and was made richer from the water he gave her. And it was not in the well. Yes, gave her water. Jesus gave her water.
Pour nombre de Noirs américains, parvenir à l'égalité raciale a été et reste un long chemin de croix. Le témoignage que vous allez entendre maintenant est particulièrement poignant. En 1959, 8 étudiants noirs furent autorisés à s'inscrire à l'Université du Tennessee en vertu d'une loi fédérale qui imposait aux États ségrégationnistes d'accueillir dans les établissements scolaires tous les jeunes qui le désiraient, quelle que soit la couleur de leur peau. Bertha Looney a aujourd'hui 76 ans. Elle fit partie de ses tout premiers étudiants noirs à franchir les portes d'une université jusque-là réservée aux Blancs. Elle tenait à nous faire part de ses souvenirs et de son émotion ce jour de 1959.
On the first day that I entered the university in 1959, it was fear.
Lorsque j'ai enfin pu entrer à l'université, ce jour de 1959, j'avais peur. J'avais beaucoup d'appréhension. J'étais anxieuse. Je ne savais pas ce qui allait nous arriver. Nous étions les 8 premiers étudiants noirs à entrer à l'université du Tennessee. Ce n'est que quelques années plus tard que j'en ai retiré de la fierté. Quand on évoque cette période de ma vie, je suis très émue et je fais preuve de beaucoup d'humilité. Je me dis que ce que j'ai vécu à l'époque a contribué au bien-être de tous.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de l'époque? Est-ce que la loi de 1954, qui permettait aux étudiants noirs d'entrer à l'université, était respectée?
Well, in 1959, the year the school was integrated.
En 1959, les écoles avaient l'obligation légale d'accepter tous les élèves, quelle que soit la couleur de leur peau. Même si beaucoup d'activités scolaires étaient interdites aux Noirs, la loi fédérale devait nous permettre de suivre des cours. Institutionnellement, nous étions dans notre bon droit. Mais être un étudiant noir à cette époque était une autre affaire. Le choc culturel était tel que pour moi, jeune africaine-américaine qui n'avait connu que la communauté noire, me retrouver dans une université qui n'accueillait jusqu'alors que des étudiants blancs, en l'occurrence 5000 étudiants blancs, représentait un vrai défi. Il n'y avait que des professeurs blancs. Personne ne nous ressemblait. Nous étions 8 noirs en présence de 5000 blancs. Nous avions le droit légalement d'aller à la cafétéria, mais on nous faisait bien comprendre qu'il fallait rester à l'écart. Nous arrivions donc quelques minutes avant 8 heures, nous nous rendions dans nos classes respectives et, un peu avant midi, nous devions quitter le campus pour éviter tout problème avec d'autres étudiants. Cette situation a duré plus d'un an. Ce fut donc une expérience éprouvante. Qui aurait dit que 59 ans plus tard, on s'intéresse encore à cette histoire? Mais j'en suis ravie. Je dois dire qu'il était très difficile d'étudier dans ces conditions. Parfois, j'hésitais à me rendre à l'université. Mais comme j'avais été recommandée par mon chef d'établissement au lycée et que j'étais soutenue par la NAACP, l'Association pour l'avancement des gens de couleur, et par le pasteur de mon église, j'avais le sentiment de ne pas seulement représenter ma petite personne, mais toute la communauté noire et studentine de Memphis. Je me disais qu'il était important que je supporte cette situation le plus longtemps possible, car, dans mon esprit, d'autres pourraient bénéficier de mon exemple. Quand je vois aujourd'hui que certains de mes anciens camarades sont à des postes clés de l'université, je me dis que ma modeste contribution a porté ses fruits.
This battle. Give us the courage to continue. Don't let us stop until the victory has been won. In Jesus' name we ask these blessings and for his sakes. Amen.
Everybody. Est-ce que vous avez participé aux marches organisées par Martin Luther King?
Yes, I did. That was an experience I shall always remember.
Oui, absolument. Voilà une expérience que je n'oublierai jamais. Martin Luther King est venu dans les années 60 à Memphis, au moment où les éboueurs organisaient des manifestations. Il se trouve que j'ai pris part à ces manifestations car je considérais Martin Luther King comme l'un de mes héros. J'ai même eu la chance de lui serrer la main le 3 avril 1968, la veille de son assassinat. Vous pouvez aisément imaginer combien ce souvenir est cher à mon cœur. Chaque fois qu'il participait à des marches de contestation, j'étais là également. Je voulais marcher à ses côtés car j'approuvais son discours non violent. Soyons honnêtes, certaines manifestations auxquelles j'avais participé au préalable ne se sont pas terminées de manière très paisible. Il est arrivé que l'on interrompt assez brutalement ces marches silencieuses, même si nous étions des gens plutôt pacifiques. En 68, je faisais partie du syndicat des travailleurs noirs de Memphis. J'étais une jeune secrétaire et le 3 avril 1968, je me suis rendue au Lorraine Motel dans l'espoir de pouvoir rencontrer Martin Luther King. Il était justement sur le balcon de sa chambre. Je suis montée le voir et il m'a chaleureusement serré la main. On ne s'est pas dit grand-chose car il y avait beaucoup de monde et chacun espérait avoir quelques mots avec le grand leader qu'il était devenu. Je me souviendrai aussi de son dernier discours. Il n'avait pas prévu de se rendre au Mason Temple, car il y avait ce soir-là un orage sur Memphis, et des rumeurs d'attentats avaient couru toute la journée. L'église était pourtant bondée. Le public attendait avec impatience Martin Luther King, et le révérend Abernathy avait beaucoup de difficultés à maintenir la ferveur des spectateurs. Son sermon n'était pas celui qu'attendait la foule. Finalement, l'un des assistants du révérend est allé chercher Martin Luther King à l'hôtel. Et il a enfin délivré ce fameux discours. Il y avait tant d'émotions que tout le monde pleurait dans la salle. Si seulement nous avions su qu'il s'agissait de son dernier discours. Ces mots étaient si profonds. J'étais parmi les heureux privilégiés à avoir pu assister à cet événement. L'émotion était palpable et tout le monde pleurait. On avait le sentiment qu'il disait « Mon action s'achève ici. Quel discours émouvant.
That was there, the attendant just cried after he gave that great speech. I've been to the mountains. It was like as if he said that it might be over for me. It's a moving speech.
I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
On le sait, le discours de Martin Luther King le 3 avril 1968 au Mason Temple de Memphis sera le dernier. Le lendemain, il sera assassiné alors qu'il se trouvait sur le balcon de sa chambre d'hôtel au Lorraine Motel. Ce lieu est désormais un musée où les visiteurs du monde entier peuvent se recueillir, mais aussi et surtout découvrir toute l'histoire du peuple noir, de la traite négrière au mouvement de contestation du XXIe siècle. 400 ans de lutte acharnée pour obtenir un statut social digne et irréfutable. Nous nous sommes évidemment rendus au Lorraine Motel pour converser avec Noël Trent, historienne, pédagogue et responsable du département éducatif et mémoriel du Musée des droits civiques à Memphis. Bonjour, Dr. Trent.
Bonjour.
Est-ce que les visiteurs américains connaissent bien l'histoire des droits civiques ?
J'aurais tendance à vous dire oui, mais beaucoup de visiteurs, après avoir fréquenté ce lieu, réalisent qu'ils ne connaissent pas véritablement leur histoire. Des pans entiers de cette destinée ne faisaient pas partie des programmes scolaires. Il s'agit pourtant d'une période cruciale de notre patrimoine. Disons que la majorité de nos visiteurs ont une vision superficielle de l'épopée africaine-américaine avant d'entrer dans le musée et comprennent ce qu'ils ont raté à la sortie du musée. Ils n'avaient pas forcément conscience du sacrifice de la communauté noire. Ils ne savaient pas que la discrimination et le racisme étaient à ce point inscrits dans la société américaine. Ils ont été confrontés à des documents parfois dérangeants, mais tellement pertinents.
Comment réagit la jeunesse face à tous ces échos de l'histoire ?
Lors de la conférence qui s'est tenue ici en août dernier, nous avions proposé un atelier de libre expression durant lequel des artistes de moins de 25 ans devaient improviser une performance à partir du slogan de notre musée « Où allons-nous maintenant ?». Certains de ces jeunes ont d'abord pris le temps de visiter le musée et ont très bien réagi à ce que nous leur présentions. Ils ont compris qui était Martin Luther King. Certains étaient davantage attirés par la figure militante de Malcolm X. Mais lorsqu'ils ont découvert que Martin Luther King pouvait aussi avoir des prises de parole radicales, notamment à la fin de sa vie, ils ont compris son engagement. Finalement, ils ne connaissaient que le Martin Luther King de 1963, celui du discours « I have a dream ». Cela les a beaucoup inspirés. Ils se sont identifiés aux étudiants noirs de l'époque qui avaient comme eux une vingtaine d'années. Ils se sont interrogés sur ce qu'ils auraient décidé dans de telles circonstances. Auraient-ils osé mettre leur vie en jeu comme l'ont fait leurs aînés ? Ils ont alors évoqué le mouvement Black Lives Matter qui anime la jeunesse actuelle. La jeune génération réagit très positivement à ce que nous lui présentons ici.
Nous avons par exemple institué depuis 1991 une cérémonie de récompense décernée aux grandes personnalités ayant soutenu le combat du peuple noir à travers la planète. Coretta Scott King, la veuve de Martin Luther King, a reçu évidemment un prix, tout comme Rosa Parks, Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Liberia, Bono du groupe U2, etc. Cette année, nous avons honoré la fille de Martin Luther King, Bernice King, ainsi que le regretté Hugh Masekela. Nous avons aussi remis un prix aux éboueurs de la ville de Memphis, représentés par certains activistes de 1968. Quand je les ai fait entrer dans la salle de réception, les jeunes les ont acclamés comme s'il s'agissait de pop stars, comme si Beyoncé entrait dans la salle. Ils se sont tous levés et leur ont fait une ovation. À ce moment précis, je savais que tous ces jeunes avaient compris l'importance de l'engagement de leurs aînés. Ils montraient du respect pour ces vétérans. Ils étaient très enthousiastes. Ils ont donc compris l'enjeu social d'un engagement citoyen. Par de petites actions quotidiennes, il est possible de provoquer un événement d'ampleur nationale. Ils ont compris cela. Ils ont compris que nous devons donner plus de crédit à tous ceux qui, dans les coulisses, œuvraient pour l'égalité raciale.
They get the sacrifice that was made. They understand it. And what was really important was that they respect it. And I think we have to give them more credit than what we've done.
There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesels humming. Don't need no tickets. We'll just thank the Lord.
Thank the Lord.
People get ready.
People Get Ready, Aretha Franklin reprend les mots de Curtis Mayfield sur l'album Lady Soul en janvier 1968 comme une allégorie à la libération de l'esprit. Alors que le combat des Noirs devient un enjeu planétaire à l'aube des années 70, l'Afrique vit avec espoir les indépendances, les Caraïbes se félicitent du processus de décolonisation et la communauté afro-américaine croit en la force de conviction d'un orateur précieux qui semble pouvoir modifier le cours de l'histoire. Le 4 avril 1968, cet espoir se fracasse sur la violente inertie d'une société encore trop conservatrice pour envisager son examen de conscience. Martin Luther King ne s'exprimera plus, mais ses partisans prendront la parole avec rage et détermination. Nous vous donnons donc rendez-vous le week-end prochain pour le deuxième volet de notre série d'émissions consacrée au 50e anniversaire de la disparition du pasteur King. Nous entendrons alors la radicalisation des mots et des notes d'une Amérique embourbée dans ses contradictions. Merci à Memphis Travel et Visit Mississippi qui nous ont ouvert les portes durant notre séjour au cœur de l'histoire africaine-américaine. Merci à Equinoxial et American Airlines qui nous ont permis de franchir l'Atlantique en toute sécurité. Merci à Laura Pinto et Christophe Champin, les voix françaises de cette épopée militante. Et merci à Nathalie Laporte qui a brillamment ranimé la flamme des droits civiques. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.